Chapitre 67. La carte minimaliste dénichée dans les archives leur donnant au moins une vague idée de la direction à prendre, Nietzsche et ses compagnons partirent le cœur gonflé d'espoir. Vêtus de tenues de voyage neuves, bien équipés et munis d'assez de vivres et d'eau, ils s'éloignèrent d'un bon pas de la Mesa puis de la Balafre. Débordante d'énergie, Chardon les guidait vers le nord, en direction d'une lointaine chaîne de montagnes noires dont les pics semblaient en roches volcaniques. Dans un désert sans point de repère, évaluer les distances se révéla délicat.
« Ces montagnes sont à des jours de marche, » dit Nathan, « même en gardant un bon rythme. »«
Dans ce cas, ne ralentissons pas, »
lâcha Nietzsche. Avec un étrange sourire, le sorcier s'arrêta pour s'essuyer le front avec le foulard blanc que Mia lui avait donné.
« Voyons si le sortilège de cette chère enfant fonctionne. »« Oui, c'est génial !» Humide, frais et rafraîchissant. Elle m'a juré que c'est un sort simple et inoffensif, mais qu'est-ce qu'il est efficace.
Nietzsche était présente lorsque la jeune archiviste avait offert le mouchoir à Nathan. Grâce au sort, le carré de tissu serait toujours mouillé et frais. Le rêve pour un voyageur.
Simple et inoffensif, oui,
concéda la magicienne.
Pourtant, même si les érudits ont le don, je n'aime pas trop les voir toucher à la magie. Ils sont mal formés, sorciers. Pense à tous les dégâts qu'ils ont déjà faits par ignorance. La tour fondue, le buveur de vie, Victoria et sa jungle.
C'est un simple mouchoir, magicienne.
Oui, les catastrophes commencent toujours comme ça.
Mal à l'aise, Nathan rangea dans sa poche le cadeau de Mia. Mais Nietzsche le vit s'en servir de nouveau durant l'après-midi. Ils marchèrent toute la journée avec de courtes pauses pour boire et se restaurer. Redevenue leur éclaireuse, Chardon tua plusieurs lézards pour améliorer l'ordinaire, pas parce qu'il le fallait, mais pour le plaisir de chasser. Le deuxième jour, le petit groupe sortit du désert pour aborder un terrain plus boisé. Dans des collines moutonnantes, ils trouvèrent des points d'eau et même un bosquet de pruniers. Ravis d'avoir des fruits frais, ils en firent une ventrée, surtout banane, et le payèrent d'une série de crampes d'estomac et de troubles intestinaux. Le lendemain, Nietzsche sentit une présence animale. Mara, s'avisa-t-elle, les suivait depuis le départ de la vallée. À un moment, elle l'aperçut entre deux rochers. Liée à sa sœur humaine, la panthère la suivait partout, mais en préservant son indépendance de félin. Nietzsche se réjouit de la savoir là. Un soir, sentant qu'elle chassait, elle partagea avec elle l'excitation de la traque, le goût du sang chaud sur la langue et la fierté d'avoir terrassé une proie. En fin d'après-midi, dans une petite prairie, les voyageurs découvrirent une carcasse de cerf. La bête avait le ventre ouvert et son foie manquait. Sinon, le reste de la viande était là. Nathan et Bannon s'alarmèrent, craignant que le prédateur rôde encore dans le coin. Très calme, Nietzsche s'agenouilla près de la carcasse.
« Mara a chassé pour nous. Elle a prélevé son morceau favori et laissé le reste pour notre dîner. Régalons-nous !»
Pendant que la magicienne faisait du feu, Chardon et Bannon découpèrent des morceaux de viande pour les rôtir. Après le repas, la fillette dut admettre que c'était bien meilleur que du lézard. Le ventre plein, les voyageurs s'allongèrent dans l'herbe et s'endormirent. Le lendemain, ils emballèrent dans des feuilles des steaks de cerf que Nietzsche protégea du pourrissement avec un simple sort de préservation. Avoir des réserves de viande ne pourrait pas leur faire de mal. Les quelques jours suivants, les voyageurs traversèrent des zones désertes et durent escalader plusieurs murailles rocheuses. Devant eux, les pics volcaniques semblaient toujours aussi lointains.
« Je n'ai jamais entendu parler de la vallée de Courotte, »
dit Nathan à Bannon. En marchant, il conversait volontiers avec son disciple. Bien entendu, Nietzsche et Chardon entendaient aussi.
« Mais j'ai lu beaucoup de récits sur les guerres de l'empereur Kourgan, qui a conquis le sud de l'Ancien Monde. Le général Outros et son armée ont vaincu toutes les cités. Ce grand stratège disposait de sorciers de guerre et de hordes de fantassins. Quand est venu le moment d'assiéger Ildakar, une capitale de légende, Outros savait qu'il allait affronter une magie incroyablement puissante. Pour ça, il lui fallait une arme spéciale. »
Nathan regarda Chardon et ajouta d'un ton mélodramatique
« Un dragon d'argent !»
La fillette écarquilla les yeux.
Je n'ai jamais entendu parler d'un dragon d'argent, dit Bannon. Une race spéciale?
Tous les dragons sont spéciaux, fiston, et ils ont de tout temps été rares. Les dragons rouges colériques, les dragons verts hautains, les dragons gris philosophes, les dragons noirs maléfiques, mais Outros voulait un dragon d'argent.
Pourquoi? Demanda Chardon.
Parce que ce sont les meilleurs combattants.
Nathan chassa un papillon qui voltait autour de son nez.
Mais ils ne sont pas faciles à apprivoiser ou à dresser. Les soldats d'Outros réussirent pourtant à en capturer un et l'enchaînèrent avec l'intention de le lancer sur Ildakar. Une nuit, le dragon brisa ses liens et se libéra après avoir dévoré ses dresseurs. Il aurait pu filer, mais il décida de se venger et massacra des centaines de soldats. Le général Outros s'en tira par miracle, une moitié du visage brûlé par le feu du dragon. Le reptile finit par s'en aller, abandonnant une armée en déroute, mais Outros ne se montra jamais devant Kourgan pour lui avouer son échec. Entêté, il chercha un autre moyen de conquérir Ildakar.
Au sommet d'une butte rocheuse, les voyageurs virent que les montagnes noires se dressaient un peu plus près d'eux.
Quand il arriva devant la cité, le général eut la surprise de sa vie parce qu'elle s'était volatilisée. Une des plus grandes mégalopoles de l'Ancien Monde.
Comment est-ce possible? Demanda Chardon. Et où était passée la ville?
Le vieux sorcier haussa les épaules.
Personne ne le sait. Cette histoire remonte à 15 siècles. Ce n'est peut-être qu'une fable, comme la disparition ultérieure d'Outros et de son armée.
Espérons que la vallée de Kourok sera un peu plus réelle, grogna Nietzsche.
Cette nuit-là, les quatre compagnons dormirent autour d'un feu de camp malmené par des bourrasques. Après que Nathan eut pris le premier tour de garde, Chardon s'enroula dans sa couverture, aussi à l'aise sur le sol rocheux que sur le parquet de la chambre de Nietzsche, même si elle se languissait de la merveilleuse peau de mouton. La magicienne se coucha près de sa disciple. Les yeux fermés, elle sonda les environs avec sa magie et ne détecta pas de menace. En revanche, elle entra en contact avec l'esprit de Mra qui se réjouit de sentir leur lien. La panthère lui ayant confirmé qu'il n'y avait rien à craindre, la magicienne s'endormit dans un souffle. Alors que son corps se reposait, ses rêves se mêlèrent à ceux de sa sœur Féline. Après la balafre et la jungle primitive, Mra était satisfaite d'évoluer sur un terrain normal. Ici, elle se sentait vraiment libre. Tandis qu'elle courait dans la nuit, en harmonie avec son environnement, Mra lâcha la bonde à ses souvenirs dans un coin de sa tête et Nietzsche put y accéder. La panthère se rappela la troca et les jeux avec ses sœurs. Des grognements, des morsures, des coups de griffe, tout ça pour rire, sans jamais chercher à faire mal. Les dresseurs les avaient vite forcés à des entraînements plus rigoureux. Au début, les jeunes panthères avaient résisté, puis elles avaient pris goût au combat et à la mort. Dans sa transe onirique, Nietzsche partagea le plaisir de déchiqueter une proie, que ce soit un humain terrifié ou un monstre créé par le sorcier en chef pour pimenter le spectacle dans l'arène. Avec une montée d'excitation, Mara se souvint d'une bête de cauchemar que ses sœurs et elle avaient combattue devant un public assoiffé de sang, mais le sang de qui la panthère aurait bien été en peine de le dire. Sous les ordres du sorcier, ses acolytes avaient transformé un taureau déjà puissant en une bête tueuse munie de 4 cornes pointues, d'une tête plate carapaçonnée et de sabots durs comme de l'acier qui soulevaient des gerbes d'étincelles en martelant les graviers de l'arène. Ce monstre était énorme, mais la troca devait l'affronter. C'était ainsi. Les trois sœurs le comprenaient. Alors que le taureau monstrueux chargeait avec un meuglement qui parvenait à dominer les cris de la foule, les panthères s'étaient déployées, chacune sachant très exactement ce que faisaient les deux autres. Avec une parfaite coordination, elles avaient encerclé puis attaqué leur adversaire. Mara lui avait sauté sur un flanc, tandis que ses sœurs s'accrochaient à sa croupe, puis l'une d'elles s'était glissée sous le taureau pour s'en prendre à sa gorge. Hélas, ses crocs n'avaient pas pu traverser le cuir trop épais. Incapable d'arrêter le taureau géant, Mara était courageusement restée accrochée à son flanc. De là, elle avait sauté sur son dos,
cherchant à lui griffer les yeux, mais il l'avait désarçonnée, manquant de peu la piétiner. Elle avait entendu craquer ses côtes. Sentant du sang couler à l'intérieur de son poitrail, elle avait rugi de douleur. Mais son adversaire n'était pas indemne. À travers le lien, elle avait capté que ses sœurs, imitant sa manœuvre, avaient bondi sur le dos du monstre pour lui infliger de profondes blessures avec leurs griffes et leurs crocs. Le taureau avait réussi à les désarçonner, et il tentait à présent de leur faire exploser le crâne avec ses sabots améliorés par la magie. Se roulant sur le sol, les cris des spectateurs dans les oreilles, Mara avait oublié la douleur due à ses côtes cassées. C'était pour des moments comme celui-là que les dresseurs les entraînaient. La troca n'avait pas d'autre raison d'exister. Avec une coordination toujours aussi parfaite, les trois panthères avaient attaqué, forçant le taureau à se coucher sur le flanc. Sur les gradins, les acolytes, spécialisés dans la magie de transformation, s'étaient rembrunis, agacés de voir leur magnifique monstre terrassé par trois panthères. Mara et ses sœurs avaient taillé le taureau en pièces. Le ventre ouvert et les entrailles dehors, il avait réussi à se relever et à résister jusqu'à ce qu'il tomberait de mort, sa grosse langue rose pointant hors de sa gueule. Couverte de sang et en piteux état, Mara et ses sœurs s'étaient placées au centre de l'arène, où leur dresseur viendrait les chercher. Malgré sa souffrance, la sœur féline de Nietzsche s'était sentie fière comme jamais. Comme les dresseurs le lui avaient appris, elle s'était battue, et elle avait vaincu sans se soucier du danger. Bannon prit le deuxième tour de garde. Alors que le sorcier se recroquevillait à côté du feu, il s'assit sur une souche, son épée à côté de lui. Attentif au moindre bruit, il regarda ses amis. Nietzsche avait le sommeil très agité. À un moment, elle poussa un grognement digne d'un félin. Immergée dans son rêve, elle était vulnérable. Tous ses amis le savaient et Bannon n'avait aucune intention de la laisser tomber. L'œil vif, il veilla sur elle jusqu'à ce qu'elle se réveille un peu avant l'aube.